1 milliard de francs pour venir en aide aux patentés et aux très petites entreprises. La province Sud souhaite donner un coup de pouce aux professionnels au travers de plusieurs mesures qui seront votées demain lors de l'Assemblée de province. Le Rassemblement dénonce les nombreuses attaques à l'encontre du président du gouvernement Alcide Ponga au sujet des deux drapeaux sur le permis de conduire. Problème, c'est aux membres du gouvernement chargés du secteur de se saisir du dossier, soit Gilbert Thuénon. La formation professionnelle, véritable défi pour le futur de la Nouvelle-Calédonie. Le membre du gouvernement en charge du secteur, Samuel Népéoun, a dévoilé sa feuille de route des prochaines années. Le diocèse de Nouméa va rendre hommage au pape François, décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Une messe à l'intention du souverain pontife sera célébrée ce vendredi soir à 18h en la cathédrale de Nouméa. Un adolescent de 15 ans interpellé dans l'affaire de l'incendie d'une partie de l'école maternelle de Boulou-Paris. Il serait déjà connu défavorablement des services de police et de la mairie. Bonsoir à tous. La province Sud veut contribuer à la reprise de l'économie. Lors de la séance publique qui se réunira demain, elle veut donner un coup d'accélérateur à la reprise économique et il doit se concrétiser par l'adoption de plusieurs mesures, Elisabeth Noir.
Trois dispositifs essentiels seront à l'ordre du jour de la séance publique demain et le premier s'intitule Sud Pro. Il s'agit d'accompagner les patentés et les TPE, les très petites entreprises, qui sont un peu les oubliés des conséquences des émeutes. Pour les aider, la province Sud va insuffler 1 milliard dans l'économie, 1 milliard qui devrait être consommé par les entreprises entre elles pour produire un effet multiplicateur. Sud Pro, c'est une plateforme de mise en relation d'entreprises qui utilise un système de points appelé Crédit Sud et qui permettra le versement d'aide à la trésorerie, une plateforme sur laquelle s'inscriront les entreprises, explique la présidente de la province Sud, Sonia Baquès.
Au moment où on s'inscrit, on dispose de 250 000 francs de crédit, mais cet argent n'est réellement distribué que quand il est consommé dans une autre entreprise. Donc il y a 1 milliard et en fait ne bénéficieront de ce milliard que les 4 000 premières entreprises qui auront consommé pour chacune les 250 000 francs qui leur seront attribués.
Avec des bonifications pour certaines.
Oui, on a souhaité prendre en compte deux situations particulières. Celle du Mondor Sud, les gens qui consommeront en fait leur crédit dans des entreprises qui se situent au Mondor Sud auront un bonus de 20% pour l'utilisation de ces crédits. De la même manière qu'on a voulu là aussi favoriser les petites entreprises. Donc les gens qui vont avoir leur crédit pourront consommer dans n'importe quelle entreprise de la province Sud, y compris des grosses entreprises. Donc leurs 250 000 francs, ils peuvent les utiliser pour acheter des matériaux, etc. Mais ils ont un bonus là aussi de 20% quand ils utilisent ces crédits dans une autre petite entreprise de moins de 3 salariés. Dans ce cas-là, ils ont un bonus de 20%.
Et la plateforme devrait entrer en vigueur dès le 5 mai si la mesure est adoptée demain par l'Assemblée de province. L'objectif, c'est d'être un véritable levier de relance pour les TPE. Le second dispositif est intitulé Sud Jeunes. Il proposera une aide ciblée en faveur des jeunes diplômés calédoniens. La province fait en effet le constat que du fait des conséquences de l'insurrection, les jeunes calédoniens se retrouvent en concurrence avec des salariés plus expérimentés et qui acceptent d'être moins payés étant donné les circonstances. Sud Jeunes, c'est donc un coup de pouce pour aider les entreprises à embaucher des jeunes.
Le constat qu'on fait aussi dans nos services de placement, c'est que malheureusement, les entreprises, faute de visibilité, n'embauchent que pour des tout petits contrats, 3 mois très souvent. Là, l'idée, c'est d'encourager des contrats plus longs, puisque la prime à l'embauche se monte à 1,5 mois de salaire pris en charge par la province pour un CDD d'un an et 3 mois de prise en charge de salaire par la province pour un CDI dès l'instant où l'entreprise embauche un Calédonien de moins de 30 ans.
Et par ces mesures, la province Sud veut donner un coup de boost à la reprise de l'économie calédonienne.
L'idée, c'est vraiment d'une manière générale, sur ces deux dispositifs, de contribuer à la reprise économique. On le sait, la province a été moteur dans le lancement des chantiers de reconstruction. On sait que les assurances commencent à indemniser, donc la machine économique reprend. Mais l'idée, c'est de donner un coup d'accélérateur à ça, avec le dispositif des patentés pour les toutes petites entreprises et qu'elles aient un coup de pouce, pour les jeunes qui sont un peu les oubliés du système. Mais l'idée, c'est vraiment que la province accompagne au retour au travail, en fait. L'idée, c'est vraiment de valoriser ceux qui continuent à bosser, ceux qui continuent à reconstruire, ceux qui continuent à vouloir s'en sortir. Et donc, par ces aides-là, l'idée, c'est de donner un petit coup d'accélérateur.
Et un troisième dispositif sera à l'ordre du jour de l'Assemblée de la province Sud. Il est baptisé Sud Santé. Il vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d'infirmiers. Il manque quelques 200 infirmiers sur le territoire et cela a, on le sait, de lourdes conséquences. La province va mettre en place des pactes d'attractivité sur le court terme. Elle prévoit également sur le moyen terme des mesures pour inciter les étudiants infirmiers à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, sur le long terme, la province Sud proposera de former plus de Calédoniens à la profession d'infirmier avec 10 bourses par an.
Un sujet sur lequel nous reviendrons demain midi dans les Jeudis de l'économie. Jean-François Baudin recevra Naya Wateou, présidente de la commission développement de la province Sud, Elisabeth Rivière, la présidente de la chambre de métiers et de l'artisanat, et Stéphane Iotto, vice-président de la CCI. Le député Nicolas Metzdorf et Nina Julier de retour de Washington où ils ont voulu sensibiliser les dirigeants américains à la situation de la Nouvelle-Calédonie et à son devenir. Les deux élus de Génération NC sont très satisfaits des rendez-vous qu'ils ont eus, Elisabeth.
13 rendez-vous en 2 jours et demi, ce voyage préparé en liaison avec l'ambassade de France à Washington a répondu manifestement aux attentes des deux élus qui ont pu rencontrer notamment le représentant de Hawaï, le conseiller à la sécurité dans le Pacifique du président Trump ou encore des représentants du département d'État, des ambassadeurs en poste à Washington et des experts des think tanks spécialisés dans les enjeux de l'Indo-Pacifique. Et ce qui les a le plus étonnés, explique Nicolas Metzdorf, c'est la connaissance que leurs interlocuteurs avaient du dossier calédonien.
Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la connaissance du sujet des Américains, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, que ce soit le conseil de sécurité du président Trump, que ce soit les élus de la Chambre des représentants. Ils ont tous une connaissance assez fine du dossier calédonien, de la question du processus dans lequel on est avec les référendums, de la question de la ressource en nickel, de la question géopolitique avec l'influence de la Chine. Et donc, ils sont plutôt très sensibles au sujet calédonien dans la mesure où, pour eux, la Calédonie est un des remparts contre l'influence chinoise dans la région. Et donc, quand on leur apprend que les indépendantistes sont proches des Chinois ou qu'il y a des groupes chinois qui essayent de racheter des usines comme celle du Nord, ça les inquiète un petit peu.
Nicolas Metzdorf et Nina Julien ont transmis 3 messages essentiels aux responsables américains qu'ils ont rencontrés. D'abord que la Calédonie est un territoire stratégique dans l'Indo-Pacifique. Ensuite que la crise institutionnelle expose la Calédonie à un risque d'ingérence extérieure. Et enfin que l'avenir de la Calédonie aura des conséquences directes sur l'équilibre de la région. Et ils ont également formulé plusieurs demandes.
Tout ce qu'on demande est bien sûr dans le cadre de la coopération avec la France. L'idée, c'est déjà d'ouvrir un consulat américain. C'est-à-dire qu'on a un consulat japonais, on a un consulat australien, on a un consulat néo-zélandais. Donc on a des consulats de nos alliés du Pacifique, sauf du plus gros, qui est celui des États-Unis. Donc c'est une piste qu'ils vont étudier. On a bien évidemment parlé ensuite des lignes aériennes, peut-être jusqu'à Hawaï, qui nous permettraient d'aller aux États-Unis un peu plus directement. On a parlé de bourses, comme le fait l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour les étudiants. On a travaillé sur un partenariat plus étroit, on les a alertés sur ce sujet. Maintenant, c'est aussi à notre gouvernement de reprendre ces sujets qui sont un peu plus techniques. Nous, on est aussi restés sur un champ aussi politique.
Et de retour à Paris, le député Metzdorf a évoqué ce déplacement à Washington avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
J'ai pu déjeuner avec le ministre à mon retour des États-Unis pour faire un point sur la situation calédonienne. Sur les États-Unis, il n'y a aucun souci, c'est un allié de la France et à partir du moment où on fait les choses dans les règles de l'art avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassades, il n'y a aucun souci. Il était même plutôt satisfait que des Calédoniens puissent faire rayonner la France dans leur région parce que c'est ça aussi la force de la France, c'est qu'elle est présente sur l'ensemble des océans et que donc c'est aussi au territoire de ces océans de la faire rayonner. Donc il était plutôt satisfait de ça, oui.
Et les élus Génération NC ont l'intention de poursuivre cette démarche en se rendant prochainement à Canberra pour poursuivre ses relations internationales. Un secteur dont ils affirment ne pas vouloir laisser le monopole aux indépendantistes.
Les dirigeants du rassemblement devant la presse ce matin avec une conférence de presse pour dénoncer les nombreuses attaques à l'encontre du président du gouvernement, Alcide Ponga, le président du gouvernement, au sujet des 2 drapeaux sur le permis de conduire.
Il est vrai que depuis quelques semaines, ce sujet particulièrement clivant ne cesse d'être sur le devant de la scène médiatique, sujet qui fait réagir notamment parce que le gouvernement est contraint, vous le savez, de payer chaque jour 150 000 francs pacifiques d'astreinte financière pour ne pas avoir supprimé le drapeau du FLNKS sur le permis de conduire, comme le lui a pourtant demandé la justice administrative. Ce matin, les dirigeants du Rassemblement ont regretté qu'Alcide Ponga, le président du gouvernement, mais aussi du Rassemblement, soit visé par ces attaques alors qu'il se trouve dans une impasse réglementaire. Xavier Rossard est le secrétaire général adjoint du Rassemblement.
Alcide Ponga, dès son élection à la présidence du gouvernement, a souhaité respecter la décision qui imposait donc la suppression du drapeau du FNKS sur les permis de conduire calédoniens. Il a donc passé consigne au secrétaire général. Ce secrétaire général nous a indiqué qu'il fallait qu'une décision passe par un projet d'arrêté et donc inscrit à la séance du gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse car le membre du gouvernement en charge des transports terrestres, Gilbert Thuénan, refuse de contresigner ce projet d'arrêté et donc il nous est impossible de l'inscrire à une séance du gouvernement. Le président Ponga ne peut pas seul décider de respecter ces décisions de justice. Si on force l'inscription d'office un petit peu sur l'ordre du jour du gouvernement, on peut se retrouver avec deux recours sur la validité de ce projet d'arrêté qui viendrait modifier le permis de conduire.
Les dirigeants du rassemblement devant la presse ce matin pour expliquer la nature donc de l'impasse réglementaire dans laquelle se trouve le président du gouvernement, mais pas seulement. On retrouve Xavier Rossard.
Pour dénoncer les attaques que nous avons vues ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment à l'encontre du président Alcide Ponga, on considère que ces attaques elles viennent décrédibiliser l'action du président du gouvernement. Et donc nous reprochons effectivement, notamment à Madame Nina Julier, de systématiquement remettre ce sujet sur la table, alors qu'elle sait très bien l'impasse politique et juridique dans laquelle nous sommes. Et donc nous venons un peu dénoncer cette pratique et nous considérons que l'unité des partisans de la France, alors même que nous négocions en ce moment l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, elle ne doit pas se jouer sur des sujets comme celui du permis de conduire.
Et face à ces attaques, les dirigeants du Rassemblement ont annoncé ce matin que le parti ne participerait pas à la réunion publique organisée d'ici quelques instants par les partisans de la France à l'hippodrome de Nouméa. Une non-participation symbolique qui ne remet pas en cause, bien évidemment, l'unité des partisans de la France dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Jordan Courteau est le secrétaire général du Rassemblement.
Les discussions institutionnelles donc sur l'avenir du territoire, on les mène en étroite collaboration avec nos collègues loyalistes. On travaille beaucoup ensemble, on se cale, on se prépare avant toutes les réunions ensemble, on participe au bilatéral ensemble. La délégation qui est composée, la délégation non indépendantiste composée, on travaille tous très bien ensemble. Nous, on n'a aucun souci à séparer les deux choses. On continuera de travailler en étroite collaboration. Par contre, là, on est, nous, face à une position d'un électron libre qui est juste insupportable pour nous et on marque notre désapprobation.
Et j'ajoute que dans un communiqué diffusé lors de cette conférence de presse, les dirigeants du Rassemblement demandent à Nicolas Metzdorf, le président de Génération NC, de, et je cite, « mettre fin aux attaques internes et de rétablir l'ordre au sein de son mouvement ». Fin de citation.
Après l'emploi hier, c'est le coût du travail, la compétitivité et le pouvoir d'achat qui ont été au cœur du deuxième jour de la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement sous l'égide de Christopher Gigès. Les débats entre les représentants des syndicats de salariés, des syndicats patronaux, des fédérations professionnelles et des établissements publics concernés sont riches et constructifs. Et pour l'instant, nous a dit Christopher Gigès, cette conférence répond aux besoins de réformes qu'il va falloir mettre en œuvre.
On a encore des gros sujets à aborder. L'objectif est vraiment d'avoir ces présentations qui sont faites en matinée pour donner le maximum de données chiffrées aux participants. Et les discussions, pour le moment, sont constructives. On pourra dire à la fin si elles aboutissent réellement à des réformes. De toute façon, je crois que la Calédonie n'a pas le choix de se réformer. Mais c'est important pour moi d'avoir cet espace d'échange avec les différents partenaires sociaux pour qu'on simplifie le marché du travail et qu'on puisse donner du travail aux Calédoniens et que ce travail soit mieux rémunéré.
Demain, les débats porteront sur la réforme fiscale avant la clôture du forum vendredi qui permettra d'évoquer la suite à donner à ce travail de concertation. Certains points pourraient donner lieu à la préparation rapide de textes de loi. D'autres nécessiteront de poursuivre les négociations. Le président de CCI France vient de passer 4 jours en Calédonie. Alain Di Crescenzo est venu constater la situation économique sur le territoire. Quelle aide CCI France peut amener à la CCI de Nouvelle-Calédonie ? Quel message fera-t-il passer à son retour en métropole ? Alain Di Crescenzo sera notre invité demain matin à 7h30. Et une refonte de la formation professionnelle pour mieux s'adapter aux réalités du terrain, c'est l'objectif du 18e gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Son membre en charge du secteur, Samuel Népéoun, a dévoilé la feuille de route des prochaines années. Des défis ambitieux mais nécessaires, car depuis quelques années, et d'autant plus avec la crise initiée par les émeutes de mai dernier, le secteur de la formation traverse une période critique. De nombreuses structures ont fermé leurs portes et le budget a drastiquement baissé. Il est passé de 1,6 milliard de francs en 2019 à 600 millions cette année. Les précisions du membre du gouvernement Samuel Népéoun.
Chaque année, on retrouve sur le marché 800 jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune formation. Ensuite, c'est l'âge de déscolarisation. On est en train de glisser de 16 ans vers 13 ans. Aujourd'hui, les besoins du marché, les entreprises attendent des jeunes avec un taux d'employabilité qui soit acceptable. Mais quand on part d'une population de jeunes qui sortent du système scolaire avec peu de formation, le gap entre son niveau d'origine et quand il va atteindre son niveau d'employabilité, le gap est juste considérable et nécessitera beaucoup de moyens. L'idée aujourd'hui, c'est arrêter la dégringolade du budget consacré à la formation professionnelle annuelle qui était, il y a quelques années, à plus d'1,6 milliard. Donc, si on veut véritablement se consacrer à la jeunesse, essayer de sublimer plutôt la valeur de notre jeunesse plutôt que de les stigmatiser, essayer de regarder plutôt le côté positif des choses et mieux accompagner la formation professionnelle.
Trois mots résument cette feuille de route: mutualisation, rationalisation et économie d'échelle. Concernant la mutualisation, le gouvernement envisage de fusionner et utiliser de manière efficiente les moyens techniques déjà opérationnels sur le territoire, comme les plateaux de formation. Autre action prévue, celle de la création d'un village des solutions à Nouville, une piste déjà envisagée par le 17e gouvernement et remise au goût du jour. Il s'agit ici d'implanter en un seul et même lieu tous les opérateurs de formation et les structures d'accompagnement pour en faciliter l'accès.
Le village des solutions, c'est quelque part un écosystème qui permet d'avoir tous les acteurs de la formation professionnelle, qui permet de sécuriser le parcours de l'apprenant de bout en bout en ayant tous les services présents au même endroit et qui répond à ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le guichet unique. Éviter que les gens aient à courir plusieurs sites, plusieurs endroits pour pouvoir accéder à une formation, à une demande d'aide, etc. Mais que tout ça soit facilité à travers des dispositifs comme le village des solutions.
Samuel Népéoun, membre du gouvernement chargé de la formation professionnelle. Ce village des solutions serait une composante d'un projet plus large, celui de faire de l'INU la presqu'île des savoirs. Cet écosystème regrouperait ainsi l'Université de Nouvelle-Calédonie, le lycée Jules Garnier, l'IFREMER et donc ce futur village des solutions. Un projet qui est encore à l'état d'étude, mais qui, une fois mis en œuvre, pourrait aller très vite et voir le jour prochainement si les financements sont trouvés. En plus d'un soutien de l'AFD et de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, le gouvernement souhaiterait débloquer des fonds européens. NCECO très sévère sur le projet d'accord politique proposé par l'État. Les représentants du monde économique déclarent que même s'il ne s'agit que d'un document de travail, ils ne peuvent rester impassibles face à son contenu, Elisabeth Noir.
Quand l'ambiguïté s'ajoute à l'absence de perspective, dans un long communiqué, NCECO se montre très sévère envers ce document. Les représentants du monde économique regrettent ainsi que le projet d'accord présenté par l'État ne mentionne à aucun moment la question du développement économique, ni même ne présente des mesures concrètes pour favoriser la croissance. Ils déplorent aussi que l'architecture institutionnelle envisagée dans ce document présage une hausse éventuelle des dépenses publiques et une absence de simplification administrative. Ils estiment que certains dispositifs évoqués succinctement ne viendraient que renforcer l'insoutenabilité du système administratif actuel et que d'autres, comme le maintien de la collégialité, interrogent sur l'efficience institutionnelle. Ils pointent enfin du doigt une absence globale de calendrier qui n'offre aucune visibilité dans un contexte de crise sans précédent. On sent une colère contenue dans ce communiqué des acteurs économiques qui affirment que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dépend de ceux qui font son économie, en d'autres termes, de la société civile. NCECO qui exprime manifestement sa frustration de ne pas être associé aux discussions sur l'avenir institutionnel.
Merci Elisabeth Noir. 18h passées de 3 minutes, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Liana Colombo.
Le diocèse de Nouméa aussi va rendre hommage au pape François, décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Une messe à l'intention du souverain pontife sera célébrée à la cathédrale de Nouméa vendredi soir à 18h par le nouvel archevêque Monseigneur Sioné Poé, Jean-François Baudin.
Il n'était pas possible de célébrer cette messe le jour des funérailles du pape à Rome, le samedi, car la cathédrale de Nouméa accueille ce jour-là une messe pour les confirmations. C'est donc vendredi soir à 18h que cette messe à l'intention du pape sera célébrée. célébrée à la cathédrale Saint-Joseph. Les autres paroisses du diocèse ont toute latitude pour organiser une célébration à la mémoire du pape, nous a dit le nouvel archevêque, Monseigneur Soussitino Sionepoe.
C'est une invitation à toute la communauté chrétienne du diocèse, aux prêtres, et là où ils sont, d'offrir une messe en mémoire du Saint-Père. Moi, avec la présence des évêques émérites et puis les prêtres d'alentour, nous allons aussi offrir l'Eucharistie en mémoire du Saint-Père. C'est pour rendre grâce au Seigneur, pour ces temps d'années de pasteur de l'Église, surtout des moments difficiles. Et puis aussi en prière pour le repos de son âme.
Monseigneur Soussitino Sionepoe, qui a rencontré le pape François une fois, c'était peu après son ordination épiscopale comme évêque de Wallis et Futuna en 2019.
La seule fois que j'ai pu rencontrer le pape François face à face, c'est en l'année 2019, juste après mon ordination évêque de Wallis et Futuna, a eu lieu à Rome le rassemblement des évêques de la CIPAC. Comme tous les 7 ans, il y a cette atelémina, on rencontre avec le pape. Donc c'est la première fois que jeune évêque pu rencontrer le Saint-Père. Et c'était un moment très fort de pouvoir recevoir la bénédiction du pape.
Monseigneur Sionepoe, archevêque de Nouméa, interrogé par Kelinda Boicou. Notez que le jour des obsèques, les drapeaux seront en berne sur les bâtiments publics de Nouvelle-Calédonie, conformément à une directive du gouvernement à Paris qui sera mise en œuvre également sur le territoire.
Il ne se doutait pas.
Des milliers de fidèles sont attendus à Rome pour les obsèques du pape François et il y aura des Calédoniens parmi eux. L'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Michel, a en effet rencontré sur place une famille de Calédoniens qui préparait ce voyage depuis 3 ans.
Ils ne se doutaient pas que leur long voyage de Nouvelle-Calédonie à Rome allait les mener jusqu'au cercueil du pape. Ce matin, ces 38 membres d'une même famille calédonienne viendront se recueillir devant le corps du Saint-Père. Hier, ils ont convergé en procession jusqu'à la basilique Saint-Pierre.
On avait une table emportée avec la tête de Jésus dessus et notre croix. Et on s'est dit qu'on va animer sur toute l'allée, on va chanter et montrer notre joie, notre foi au Christ. Et c'est comme ça qu'on a voulu faire autrement que d'aller silencieusement. On a continué à rester dans la joie.
À la sortie de la basilique, Graziella a les larmes aux yeux.
On a passé la porte sainte de Saint-Pierre tous ensemble, en pensant au pape et tous les défunts de notre famille, tous ceux qui nous ont soutenus.
Raïssa a grandi avec la figure du pape François, elle a 22 ans.
Il a beaucoup travaillé pour la jeunesse et je l'en remercie parce qu'en soi, on a besoin de jeunesse de nos jours pour pouvoir relever notre église, on va dire, surtout dans les coins les plus reculés, le pape François, le pape des jeunes.
Samedi, cette grande famille calédonienne espère qu'il y aura assez de place à Saint-Pierre pour assister aux funérailles du pape. Rome, Frédéric Michel, Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous attristé par le décès du pape François? Si vous êtes attristé, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent impatients de connaître les résultats du recensement pour savoir combien nous sommes d'habitants en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 17% à ne pas partager cette impatience. Un nouvel équipement pour la commune de Bouloux-Paris qui verra le jour dans quelques mois. C'était ce matin la pose de la première pierre de la future base nautique de Bouraquet. Une cérémonie qui s'est déroulée en plusieurs temps avec d'abord, comme à chaque fois à Bouloux-Paris, la diffusion du film de promotion économique de la commune. Un film apprécié par les habitants venus nombreux ce matin découvrir le projet. Un projet détaillé par Pascal Vittori, le maire de Bouloux-Paris.
Sur ce lieu qui va être confié à un club de Vaha, le Ténia Vaha Club, on va retrouver des racks pour les Vaha, un petit bureau, un endroit pour ranger le bateau accompagnateur, enfin tout le nécessaire pour avoir cette activité nautique sur Bouraquet. On a envie d'apporter des services supplémentaires à notre population, qui est maintenant de très importante. Donc ça va servir aux enfants de la commune à pratiquer le va et d'autres activités nautiques comme le canoë. On a l'intention également de faire venir des petits bateaux de régate ou des catamarans avec l'aide des clubs de Nouméa.
La communication, c'est bien, mais avec des actes, c'est encore mieux. Des mots de Catherine Merckx, représentante de l'État ce matin à Bouraquet, pour rappeler que la commune de Bouloupari communique bien, mais réalise aussi de nombreux projets.
C'est un beau projet, c'est un projet qui s'inscrit dans tout un projet de développement touristique de la baie. C'est construit après le wharf et c'est dans le cadre des contrats de développement de la trajectoire 5.0. Et forcément, sur des beaux projets comme ça, l'État est présent et accompagne les communes. Et des projets pleins d'espoir et la commune sort beaucoup de projets. Et ça fait peu de temps que je suis sur le territoire et pourtant j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs inaugurations à Bouloupari. Donc il y a des projets sur le papier, mais après ces projets deviennent concrets. Et quand on est un représentant de l'État sur le territoire, c'est toujours très agréable de voir que justement quand on finance, derrière les projets ils sortent, ça bénéficie à tout le monde, à toute la population, aux jeunes, aux sportifs, aux touristes et voilà.
Ce matin, c'était donc la pose de la première pierre, ou plutôt de la première planche. En effet, les élus ont signé un parchemin qu'ils ont ensuite inséré dans une structure en bois préparée pour l'occasion, pour rester dans l'esprit nature qui représente Bouloupari, une base nautique dont le coût est estimé à 70 millions de francs, financés par l'État, mais aussi par la province sud. On écoute sa présidente Sonia Baquès.
C'est un beau projet. Encore une fois, Bouloupari, aujourd'hui, grâce à l'impulsion de Pascal Vittori, à une vraie identité, avec des projets concrets qui se mettent en place au bénéfice de ceux qui y habitent d'une part et d'autre part à ceux qui veulent bénéficier de structures touristiques ou d'un arrêt en allant un peu plus loin en brousse. Donc c'est un beau projet qui se met en place après celui du marché, de la caserne, de la traversée de Tomo et tous les projets qui sont portés par la mairie. Donc très heureuse de participer.
Je rappelle que la future base nautique de Bouraquet sera exploitée par le Ténia Va Club. À l'issue de cette visite, le maire de la commune s'est rendu à l'école maternelle Marthe Bourgine, dont une classe a été incendiée. L'enquête a permis d'interpeller un jeune de la commune âgé de 15 ans. En garde à vue, il a reconnu les faits. Et comme l'explique Pascal Vittori, le maire de Bouloupari, le jeune est défavorablement connu de la justice, mais aussi des équipes de la mairie.
Un jeune a été interpellé, mis en garde à vue, interrogé. Il a reconnu les faits. C'est un jeune qui avait déjà commis des actes délictuels assez graves. C'est un jeune que j'avais même reçu dans mon bureau avec sa maman pour lui faire la morale dès qu'il a commencé à déraper. Et malheureusement, il n'a pas su écouter ce qu'on lui avait dit. Il n'a pas su revenir dans le droit chemin. C'est un jeune qui n'a malheureusement que 15 ans, qui va devoir rendre compte de ses actes devant la justice.
Je rappelle que la rentrée n'a pas pu se faire normalement mardi car l'eau et l'électricité n'avaient pas été rétablies. Depuis, des experts sont passés. Il y a désormais de l'eau. Des travaux sont en cours pour sécuriser la cour, mais aussi pour empêcher la vue et l'accès à la salle brûlée. Si tout se fait comme prévu, d'ici la fin de la semaine, les élèves pourraient retrouver le chemin de l'école dès lundi. Un soulagement pour Valérie Trahan, directrice de l'école, même si elle appréhende un peu de retrouver ses élèves.
J'appréhende déjà la rentrée, à devoir, on va faire un petit débrief sur ce qui s'est passé. Les enfants auront probablement des questions, on va essayer que ce soit verbalisé à l'oral ou s'exprimer par des dessins. C'est notre deuxième maison, hein, autant pour les enfants que pour nous les maîtresses. Comment on va de l'avant? Et ben, c'est les enfants, hein, les élèves qui nous font aller de l'avant. Hein. On va de l'avant pour eux. On rebâtit, on reconstruit, on va refaire pour eux et avec eux, surtout. Voilà. C'est leur avenir, hein, donc on va de l'avant pour leur avenir. Leur avenir, c'est aussi le nôtre.
La classe incendiée à l'école Marthe Bourgine de Bouloupari devrait être reconstruite d'ici 1 à 3 mois. En attendant, il faut s'adapter. La maîtresse et ses élèves seront dans la salle de motricité. Dans l'actualité de ce mercredi soir également, les responsables du COS, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie, dressaient cet après-midi le bilan de l'année 2024. Lionel Sabot.
Une année qui peut se résumer en quelques chiffres clés. 2024, le COS a coordonné 314 opérations lors desquelles 123 personnes ont été secourues et 271 assistées pour notamment du remorquage. L'an dernier, le COS aura coordonné 165 missions de recherche et de sauvetage sont de mission pour des navires en difficulté. Une année opérationnelle chargée avec une moyenne de 6 opérations par semaine, mais qui, malgré les émeutes du mois de mai, reste globalement stable par rapport à 2023. Nicolas Chomard est le directeur du COSENSE, le centre qui existe dans sa formule actuelle depuis 2 ans et qui va se renforcer en termes de moyens et de matériel dans les mois et les années qui viennent.
Indépendamment de ces événements insurrectionnels, le COS a continué à travailler et il y a eu un volume d'opérations conséquent. Ça, c'est pour l'activité du centre. Mm-hmm. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des missions aujourd'hui qui ont été stabilisées par l'arrêté qui a porté création du COS, qui aujourd'hui ont tout son sens, notamment en termes de prévention de sécurité maritime. Quand on parle de surveillance de la navigation maritime, les gens vont se dire, ok, mais c'est quoi ? Mais concrètement, ça veut dire que la surveillance de la navigation maritime, c'est chaque année des échouements et donc des pollutions maritimes d'ampleur évitées par le COS et ses partenaires. Voilà aujourd'hui aussi concrètement ce que ces missions de prévention dans le cadre des enjeux de sécurité maritime apportent aussi. D'où l'importance d'avoir eu cet arrêté COS qui stabilisait ces missions et la montée en puissance que j'évoquais à l'instant.
Plus de la moitié des opérations coordonnées par le COS l'an dernier relevaient de sauvetage en mer, d'urgence médicale ou de naufrage. Les interventions sont restées concentrées dans le Lagon et dans les eaux territoriales qui relèvent de la compétence du président du gouvernement. Les interventions sur les navires de plaisance sont restées majoritaires l'an dernier. Et à propos de navigation de plaisance, le COS tient à faire passer un message de prévention, notamment à l'attention des utilisateurs de plates. On retrouve Nicolas Chomard.
Elles sont très commodes parce qu'elles ne sont pas très chères et elles permettent effectivement d'aller à la pêche. C'est quelque chose ici qui est très répandu. Néanmoins, elles ne sont pas forcément adaptées pour naviguer dès que les conditions de météo ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que ce sont des engins qui ne sont pas faits pour une météo assez forte dans le lagon qui peut lever de la mer. Donc il ne faut pas que les plates soient en surcharge de passagers. Il ne faut pas qu'on soit très nombreux à bord parce que sinon la stabilité de la plate va être mise en cause. Il ne faut pas qu'on navigue avec les plates quand la météo s'est dégradée. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la météo, pas partir en mer si les conditions météo ont prévu de se dégrader. Que ce soit en termes de vent ou en termes de houle. Et également, il faut surtout avoir le matériel de sécurité, un moyen d'alerte. C'est-à-dire que nous, souvent, la difficulté, c'est que quand on est informé sur une problématique de plate qui est partie à la dérive, on est informé très tard. Si les passagers de cette plate avaient soit une VHF portable, soit un téléphone qui fonctionne, et le problème du téléphone, c'est que des fois, on est hors de portée, et ben, dès qu'on est alerté, le centre peut toujours faire quelque chose et on va y arriver. Alors que quand on est alerté beaucoup trop tard ou très tard, par des familles qui s'inquiètent et non pas par les personnes qui sont elles-mêmes en danger, c'est là que ça se complique.
Et rappelons que le COS coordonne les opérations de secours et s'appuie pour cela sur des partenaires clés, les moyens nautiques de la SNSM, les moyens nautiques aériens des FANC, les forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sont très souvent sollicités, mais aussi les sapeurs-pompiers, les moyens nautiques des provinces et plus globalement les moyens de l'ensemble des gens de mer, qu'ils soient professionnels ou non.
18h17, dernière pause avant de voir tout le sport.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Et oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Haval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et on parle de judo tout d'abord. Un Calédonien est engagé avec l'équipe de France au championnat d'Europe. Après une médaille de bronze au Grand Slam de Paris début février et une médaille d'argent le mois dernier au Grand Chelem de Géorgie, Alexis Mathieu espère décrocher cette fois-ci l'or. Il est dans la catégorie des moins de 90 kilos des championnats d'Europe et de judo qui ont lieu dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Monténégro. Et du cyclisme sur piste avec cette très bonne bonne nouvelle pour deux jeunes Calédoniens, Louis Chavitz et Hervé Salin, ont été sélectionnés en équipe de France. Ils participent cette semaine à un stage sprint qui se tient dans la région parisienne, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une fierté pour le président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie.
Pas encore un aboutissement, mais en fait c'est le résultat déjà d'un travail de formation au niveau de la piste calédonienne qui amène petit à petit des résultats et des jeunes qui montent en performance avec le temps qui passe et le travail fourni. Ça fait son bonhomme de chemin, je vous le dis, hein, c'est des conséquences d'un travail conséquent et d'une équipe d'encadrement qui est à la hauteur et qui parvient à créer de l'engouement au niveau de la jeunesse. Et derrière, nos deux têtes d'affiche que sont Louise et Hervé, nous avons d'autres jeunes qui commence à monter dans les niveaux de performance. Nous avons bon espoir cette année, notamment pour les championnats de France de l'avenir, d'emmener une équipe très compétente et avec des objectifs assez ambitieux.
Stéphane Coulon, président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie. Louis Chavitz était en stage hier et lundi avec les moins de 19 ans. Hervé Salin débute son stage aujourd'hui et jusqu'à vendredi avec les moins de 23 ans. Une belle reconnaissance pour ces deux talents du vélo calédonien qui poursuivent leur progression au plus haut niveau. Et puis un mot de tennis pour terminer. Mélodie Dalle vient d'être élue bénévole du mois par la Fédération française de tennis. Une belle reconnaissance pour la nouvelle présidente de la Ligue de Nouvelle-Calédonie qui souhaite redonner une dynamique au sport de raquette sur le territoire. 18h21, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
En voyant toute la météo avec vous, Nicolas.
Tout d'abord, vigilance jaune, forte pluie, orage cette nuit et la journée de demain jeudi sur les loyautés de la côte est de Ouégoua, Ayaté et l'extrême sud pour les averses orageuses qui peuvent donner d'ailleurs des cumuls de l'ordre de 100 à 150 millilitres sur 24 heures. Cette nuit alors, le ciel restera chargé même si de timides éclaircies s'habiteront sur l'ouest et le nord. Quelques gouttes seront possibles par endroits, mais l'est, l'extrême sud et les loyautés conserveront des averses plus marquées, parfois forte ou orageuse. Le vent soufflera entre 15 et 22 d'est à sud-est, mais s'orientera au secteur nord-est aux loyautés. Les températures minimales seront généralement comprises entre 22 et 24 degrés, localement 21 degrés dans l'intérieur. Demain matin, le ciel restera souvent très nuageux, avec des averses qui pourront être parfois fortes ou orageuses, notamment sur les loyautés, l'est et l'extrême sud. Quelques ondées déborderont par moments sur le sud-ouest. Sur le nord de la Grande Terre, le temps sera plus sec avec quelques éclaircies. Le vent de secteur sud-est s'établira de 5 à 10 nœuds, mais il s'orientera au secteur nord-est de 10 à 15 nœuds sur l'est, Léana.